They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
What will be your reaction?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天，原本居住在祁连县偏远牧区的
母亲南家，正忙着整理家务事。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez tous les jours, du lundi au vendredi, entre 11h et 11h50, une émission préparée ce matin par Clément Salazar, mais aussi Xavier Martinet, Antoine Dulster, Audrey Rameau, réalisée ce matin par Perret Legras et mise en onde par Élise Le. Nouvelle semaine donc consacrée à l'Europe. Europe, un édifice en sursis. L'Union européenne a-t-elle entamé sa lente désintégration? Son unité est-elle menacée? Partout, en tout cas, les fractures semblent béantes. On évoquera demain peut-être les moyens de réenchanter ce projet européen. On parlera aussi, ça sera mercredi, de mobilité pour les étudiants, pour les travailleurs notamment. Et puis on parlera également de l'introuvable politique de défense commune. Mais ce matin, ce sont de ces menaces qui pèsent sur l'Union européenne dont on va discuter. Le Brexit, le Grexit, la remise en cause aussi de l'espace Schengen. Chemine-t-on vers une union self-service? C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
160,000, that's the number Europeans have.
Ce sont 160 000 personnes que nous devons accueillir dans nos bras. Et j'espère que cette fois, tout le monde sera à bord. Plus de poèmes, plus de rhétorique. Maintenant, nous avons besoin d'agir.
Action is what is needed for the time.
Les droits civils universels ont été jusqu'à présent étroitement liés à l'Europe et à son histoire, en tant que principe fondateur de l'Union européenne. Si l'Europe échoue sur la crise des réfugiés, ce lien avec les droits civils universels sera cassé. Ce ne sera plus l'Europe dont nous devons toujours aujourd'hui développer le mythe fondateur.
Avec plus de 2000 arrivées par jour selon Frontex, les statistiques sur la période de Noël ne sont pas encourageantes. Le sommet européen de mars sera la dernière chance de voir si notre stratégie fonctionne. Si ce n'est pas le cas, nous ferons face à de graves conséquences telles que l'effondrement de Schengen.
L'effondrement de Schengen, disait Donald Tusk, le président du Conseil. On entendait également Angela Merkel et Jean-Claude Juncker. Voilà désormais le spectre qui plane au-dessus de l'Union européenne. Un de plus après celui des dettes publiques, de l'éclatement de la zone euro via le scénario d'une sortie de la Grèce, le fameux Grexit. Maintenant, c'est le Brexit. En tout cas, cet effondrement de Schengen, c'est probablement la plus grande menace qui guette une Union européenne bien en souffrance. Je ne me fais pas sur l'année qui pointe, trop d'illusions, avait dit Jean-Claude Juncker à la presse mi-janvier, avant d'ajouter, se dire impressionné par le nombre de fragilités et de ruptures au sein de l'Union. Et pour cause, en 2015, ces fragilités se sont fait jour et en première ligne, la survie de l'espace Schengen désormais menacée puisque 6 pays, dont l'Allemagne et l'Autriche, ont rétabli leurs frontières. L'espace Schengen pourra-t-il survivre à la crise migratoire? Et d'ailleurs, la fermeture des frontières permettrait-elle réellement d'endiguer les flux de migrants? Que restera-t-il de l'idée européenne si on ne peut plus circuler librement dans cet espace? Outre-Manche, David Cameron se retrouve pris à son propre piège, réélu en 2015 sur sa promesse de la tenue d'un référendum sur le maintien ou non dans l'union de son pays. Il se retrouve à faire campagne en faveur du oui tout en demandant des concessions à la Commission. Faut-il céder à la Grande-Bretagne au risque de devenir une union au rabais, à la carte, où chacun prend ce qui lui convient de prendre? L'adhésion au projet en tant que tel n'a jamais été une évidence pour la Grande-Bretagne. Une question s'impose. Est-ce que cette Grande-Bretagne a vocation à rester, être ou ne pas être ensemble? La question se pose également à l'Est. Dans quelle mesure les dérives populistes de certains pays menacent l'unité de l'Union européenne? Le groupe de Visegrad, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie se réunit aujourd'hui même à Prague. Il sera question d'ailleurs de migration pour arriver à quelle position commune. Et d'ailleurs, la multiplication de ces groupes binômes, en l'occurrence là c'est un quatuor, n'est-elle pas aussi le signe d'une certaine désagrégation, désintégration européenne? On en parlera tout à l'heure. Pour évoquer cette union self-service aujourd'hui dans cette première série consacrée à l'Europe, nous avons invité Thierry Chopin. Bonjour Thierry Chopin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur des études à la Fondation Robert Schuman. Vous êtes chercheur associé aux séries Sciences Po et également à la London School of Economics. Courant janvier, le président du Conseil, on l'entendait, Donald Tusk, affirmait que l'Union disposait de pas plus de 2 mois, disait-il, pour régler cette crise migratoire, sans quoi l'Union devrait tirer un trait sur l'espace Schengen et sur cette libre circulation. La situation, évidemment, Thierry Chopin, est d'autant plus inquiétante que tout le monde se rend bien compte que si Schengen disparaît, c'est quand même le pilier central du projet européen qui s'écroule.
Alors effectivement, la multiplication des crises que vous avez évoquées à l'instant, crise de la zone euro, crise des réfugiés, on pourrait ajouter évidemment les attentats terroristes à Paris à la fin de l'année dernière. Toutes ces crises, ces polycrises, hein, finalement, comme les appelle lui-même Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, mettent en jeu la capacité de l'Union européenne aujourd'hui à rester unie face à ces crises. Et je crois que c'est évidemment une question qui est absolument centrale parce que l'unité est absolument nécessaire. Et en même temps, face à des circonstances exceptionnelles de cette nature, comme c'est le cas pour la crise des réfugiés, on voit bien que la tentation de beaucoup d'États est le repli sur un cadre qui finalement est jugé le plus naturel, entre guillemets, par les citoyens, qui est jugé aussi le plus protecteur. État qui exerce d'ailleurs les compétences régaliennes de contrôle de leurs frontières nationales. Et finalement, il y a une tentation du repli sur le glacis national et la frontière comme seule limite de protection jugée en tout cas légitime. Et donc d'un côté, exigence d'unité pour affronter ces crises, et puis de l'autre, risque effectivement de division politique extrêmement importante et peut-être de fragmentation. Et évidemment, l'interrogation qui doit être posée, celle de savoir comment l'Union européenne peut rester unie face à ces crises.
Alors, il faut peut-être rappeler, Thierry Chopin, les conditions dans lesquelles on peut fermer ses frontières, puisque le droit européen permet de suspendre temporairement Schengen, de reprendre le contrôle des frontières dans certaines conditions. Alors, il y a par exemple les manifestations sportives ou politiques, il y a le cas d'urgence, c'est-à-dire, en gros, les attentats, ce qui permet de fermer les frontières 6 mois dans le premier cas et 2 mois dans le second cas, et puis ensuite, donc ça fait 6 mois plus 2 mois, ça fait 8 mois, et ensuite, on a une autre procédure qui permet de rétablir les frontières de rétablir le contrôle aux frontières, effectivement, pour une période qui peut aller jusqu'à 2 ans. Mais en réalité, et c'est ça peut-être sur lequel il faut insister, Thierry Chopin, c'est que poursuivre les contrôles pendant 6 mois, 2 mois ou même 2 ans, c'est une manière, finalement, de suspendre Schengen par le droit, mais de le sauver. En réalité.
Alors, je ne dirais pas que c'est un moyen de suspendre Schengen. Parce que, là encore, comme vous le disiez à l'instant très justement, et je pense qu'il faut insister sur ce point, il est clair que Schengen prévoit le retour de contrôle aux frontières intérieures entre les pays membres de l'Union européenne en cas de circonstances exceptionnelles. Et ces circonstances exceptionnelles, elles peuvent être à la fois de l'ordre effectivement de manifestations sportives importantes. Évidemment, les prochains championnats d'Europe de football seront l'occasion d'un maintien de ces contrôles aux frontières intérieures au sein de l'Union européenne. Les attentats terroristes récemment ont été évidemment un élément très très important du déclenchement finalement de ce retour des contrôles aux frontières intérieures. En tout cas pour un pays comme la France, on peut imaginer aussi d'autres circonstances exceptionnelles. Ça a été le cas aussi pour la COP21 en France récemment. Donc, je pense qu'il est absolument indispensable de ne pas considérer aujourd'hui que Schengen est mort.
Nous sauverons Schengen en appliquant Schengen, avait dit Juncker.
Oui, absolument. Il faut utiliser, je crois que c'est la première chose à faire, tous les dispositifs qui sont prévus d'ores et déjà par ce code Schengen, hein, comme on l'appelle techniquement, et qui permet, encore une fois, en cas de circonstances exceptionnelles, eh bien, d'exercer à nouveau des contrôles aux frontières intérieures.
Par ailleurs, tout ça, quand même, Thierry Chopin, pardon de vous couper et je vous laisse poursuivre, mais tout ça a des conséquences économiques terribles. Oui. Le commissaire général à la stratégie et à la prospective, présidé par Jean Pisani-Ferry, a publié une étude récemment sur les conséquences économiques d'un abandon des accords de Schengen. Le bilan, c'est le PIB de la France en retrait de 0,5% d'ici à 10 ans, c'est-à-dire 13 milliards d'euros en moins. Et pour l'ensemble de l'espace Schengen, on parle de 100 milliards d'euros. Évidemment, c'est très difficile de mesurer, mais on voit un peu l'ampleur du désastre économique.
Donc, je crois que l'idée n'est pas de rétablir, évidemment, de manière durable les contrôles aux frontières intérieures de l'Union européenne. Encore une fois, ce qui est prévu par Schengen relève d'un rétablissement temporaire, même si le temporaire peut aller jusqu'à 2 ans, comme vous l'indiquiez vous-même tout à l'heure. Et le véritable enjeu, effectivement, à cet égard, c'est de compléter le dispositif Schengen actuellement existant par un renforcement des modalités du contrôle des frontières extérieure de l'Union européenne. C'est vraiment ça la question que pose aujourd'hui, en tout cas depuis plusieurs mois, la crise réfugiée. Parce qu'effectivement, si on prolonge de manière potentiellement indéfinie, la première conséquence, ça serait effectivement de revenir sur Schengen, c'est-à-dire de faire imploser le dispositif si on va au-delà des 2 ans, avec à la fois des conséquences économiques. Effectivement, le rapport de France Stratégie que vous mentionniez est très clair de ce point de vue-là en termes d'impact économique du point de vue vue de finalement la réduction du tourisme dans les pays qui rétablissent leurs frontières. Du point de vue des conséquences aussi sur les travailleurs frontaliers qui passent d'un côté et de l'autre de telle ou telle frontière pour leur job au quotidien. Et également, évidemment, pour ce qui concerne le transport routier au sein de l'Union européenne. Donc conséquences économiques d'un côté, puis conséquences politiques de l'autre, puisque ça signifierait aussi, si on maintient de manière indéfinie ces contrôles aux frontières intérieures de l'Union européenne, ça donnerait le sentiment que finalement on revient sur un projet qui a été un projet politique de première importance, qui a été d'organiser la liberté de circulation au sein de cette Union européenne. Et donc ça donnerait le sentiment finalement qu'on a mis en place un système qui a octroyé trop de liberté. Et ce qui, évidemment, politiquement, pourrait être un problème de première importance.
Alors, il y a cette exigence de reprendre le contrôle de ces frontières extérieures. Du coup, il faut qu'on parle de la Grèce, Thierry Chopin, parce que la Commission européenne a adopté une série de recommandations afin que les négligences graves, je cite, de la Grèce dans son contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne soient corrigées. Son constat est sans appel. La Grèce néglige gravement ses obligations. Il existe des manquements graves dans l'exécution des contrôles aux frontières extérieures que les autorités grecques doivent surmonter et résoudre. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque à stigmatiser de la sorte la Grèce?
Alors, d'un côté, ce que vous décrivez, ce qu'a reconnu la Commission européenne, avait été dit il y a déjà plusieurs mois, cet été, par le Haut Commissariat pour les réfugiés. Vincent Cochetel, qui est le directeur Europe du HCR, avait pointé du doigt, de manière très claire, ces dysfonctionnements de la part de l'administration grecque, en matière notamment d'identification, de prise d'empreintes, en fait, des réfugiés arrivant sur les côtes grecques. Donc c'est quelque chose que l'on connaissait. Effectivement, le risque, c'est... Finalement, il y a deux possibilités, il y a deux réactions possibles face à ces dysfonctionnements. D'un côté, la stigmatisation, et ça, c'est effectivement très dangereux parce que ça accroît la défiance entre les États. Et ça accroît la défiance dans un contexte où c'est bien plutôt la confiance entre ces États qui devrait dicter finalement les décisions à prendre. Et puis, ça permet aussi finalement de ne pas prendre ses responsabilités en termes de solidarité à l'égard des pays qui sont en première ligne. Et ça, c'est effectivement un des dysfonctionnements, une des limites du système en fait européen actuel que révèle la crise des réfugiés. C'est-à-dire que d'un côté, on a mis en place un système de libre circulation en fait interne, sans, en tout cas au niveau européen, mettre en place les dispositifs qui permettent de renforcer le contrôle des frontières extérieures en laissant les États pris individuellement gérer ce contrôle à leurs frontières. Finalement, considérant que il n'y avait pas de frontières européennes à proprement parler, mais finalement une fragmentation de frontières nationales que chaque État est censé contrôler lui-même.
Oui, parce qu'il faut peut-être rappeler que, pardon de vous couper, mais effectivement, si la Commission européenne envoie ce message, c'est aussi parce que Athènes a régulièrement refusé l'assistance européenne sur ce contrôle des frontières. Donc on voit bien que là se joue une question de souveraineté.
Absolument. Et c'est bien là le problème, c'est que toute cette gestion de la crise des réfugiés montre le poids en fait des souverainetés nationales, montre que les États ne veulent pas se dessaisir, encore une fois, de ce que j'appelais tout à l'heure leur compétence régalienne, le contrôle de la frontière en termes de limites de sécurité d'un État, évidemment le cœur de sa souveraineté.
Et est-ce que l'Europe pourrait finalement menacer Athènes d'exclusion de l'espace Schengen?
Moi, je pense qu'il faut faire très attention en fait à ça.
Je te pose la question.
Je pense qu'il faut faire très attention à ce type de discours, encore une fois, de stigmatisation qui ne peut qu'alimenter en fait la défiance et donc favoriser une forme de désunion politique, alors même qu'on est dans un contexte qui doit nous conduire à rester unis pour faire face collectivement et solidairement à ces défis. Et donc, je pense que la menace d'une exclusion de tel ou tel pays de l'espace Schengen n'irait pas dans la bonne direction. Je pense que la bonne direction à prendre est plutôt d'aider en fait les États qui sont en première ligne, donc qui sont en difficulté dans la gestion de ces flux migratoires, et quelque chose de première importance. Tout ça me fait vraiment penser, si on veut tenter un parallèle entre la crise de la zone euro et finalement la crise grecque et la crise des réfugiés, finalement qu'est-ce qui s'est passé au moment de la crise de la zone euro et au moment de l'explosion de la crise de l'endettement public grec? On s'est rendu compte, mais au bout de combien de mois ? Finalement, au bout de 2 ans, on s'est rendu compte qu'un déficit grec était en réalité un déficit européen. Est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre compte, avec cette crise des réfugiés, qu'une frontière nationale, qu'elle soit italienne ou qu'elle soit grecque, est en réalité une frontière commune à l'ensemble des Européens ? Si on accepte cette idée-là, alors est-ce qu'on doit rester dans le système actuel qui est un système où chaque État, effectivement, essaye de préserver, de protéger autant que faire se peut sa souveraineté nationale en matière de contrôle des frontières extérieures qui constituent le cœur de sa souveraineté étatique, ou bien, plutôt que d'avoir affaire à des réactions unilatérales des États pris individuellement, est-ce qu'on ne doit pas substituer à ce système-là, eh bien, un système d'action commune?
Vous avez l'impression que c'est le cas. Vous avez l'impression que c'est le cas. Vous avez vu cet appel à l'OTAN. 7 février dernier, François Hollande et Angela Merkel se retrouvent à Strasbourg pour évoquer cette crise migratoire, pour définir une feuille de route pour y répondre. La chancelière allemande va ensuite à Ankara pour en parler avec Erdogan. Avec la Grèce et la Turquie, donc, on envisage de solliciter l'OTAN pour les aider à mieux protéger, pour mieux contrôler les frontières. Jusqu'ici, l'OTAN était resté parfaitement neutre. Jamais il n'était intervenu dans cette crise migratoire. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée d'appeler l'OTAN ? Est-ce que l'OTAN peut sauver Schengen ?
En tout cas, je ne sais pas si c'était une bonne idée d'appeler l'OTAN. Ce que je vois, c'est que par rapport... Effectivement, vous avez raison, la balance penche du côté des réactions éparses des États nationaux pris individuellement. Ça, c'est très clair. Il n'y a pas eu d'anticipation commune, il n'y a pas d'action commune. Ça, c'est absolument clair. En même temps, je pense qu'on doit reconnaître qu'un certain nombre de choses sont en train d'être faites, qui ne sont peut-être pas suffisamment médiatisées. Je prends un seul exemple. Je pense au renforcement d'abord de Schengen, à son renforcement en termes de moyens financiers, à son renforcement en termes de moyens humain, et aussi en termes de modification du fonctionnement en fait de Schengen, qui jusque-là était finalement une agence au service des États, que les États voulaient bien ou pas mobiliser pour les aider, et qui de plus en plus, d'ailleurs sous l'effet des propositions à mon sens qui vont dans la bonne direction de la Commission européenne, eh bien modification proposée du fonctionnement de l'agence Frontex, qui va dans le sens d'une plus grande autonomie, qui ne serait plus à terme une agence au service des États, mais davantage une agence au service de l'Union européenne.
C'est encore un renforcement à la marge, hein, Thierry Chopin.
Oui.
Et quand on appelle aussi clairement l'OTAN, c'est aussi parce qu'on ne veut peut-être pas mettre les moyens qu'il faut.
Oui, mais en tout cas, encore une fois, vous avez raison, c'est sans doute pas suffisant. C'est pas suffisant. On est encore dans un système qui est insatisfaisant, mais malgré tout, reconnaissons au moins que... sous l'effet et à l'initiative de la Commission européenne, un certain nombre de propositions intéressantes ont été faites dans cette direction.
Allons plus en profondeur dans cette question-là. Est-ce que c'est suffisant ou pas ? Parce qu'on entend régulièrement des voix s'élever, et d'ailleurs ici, à ce micro, pour dire que finalement, on se préoccupe beaucoup trop de cette question de la surveillance, du contrôle des frontières, et peut-être pas suffisamment à celle de l'intégration des migrants. On pourrait en reparler. Mais on pourrait aussi se poser la question dans l'autre sens. On pourrait se demander si finalement, en fait, on dépense suffisamment pour le contrôle de nos frontières. Le budget de Frontex, pour 2015, 142 millions. Alors c'est vrai qu'il est en augmentation par rapport à 2014, mais à titre de comparaison, les États-Unis prévoient de dépenser pour 2016 13 milliards de dollars. On va poser la question politiquement incorrecte, Thierry Chopin. Est-ce que on dépense suffisamment d'argent pour le contrôle de nos frontières ?
Non, collectivement, en tout cas non. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si on veut bien accepter cette idée que l'ensemble des crises, évidemment y compris aujourd'hui la crise des réfugiés, met en évidence que l'Union européenne n'a pas à sa disposition les moyens à la fois politiques et budgétaires pour exercer des compétences qui sont de nature régalienne et qui sont conservées de manière très jalouse par les États. Si on est d'accord avec cette hypothèse-là, on voit bien que la solution, alors, c'est d'envisager de nouvelles formes d'exercice en commun de ces parts de souveraineté-là au niveau commun, au niveau supérieur.
Mais vous la voyez, vous, cette mutualisation des moyens ?
En tout cas,
vous la voyez venir ?
Le sens du discours, de l'argument que j'essaye de défendre, c'est-à-dire que c'est ce débat qu'il faut avoir.
Ouais, mais vous avez le sentiment qu'on l'a ?
Non, ce débat, on ne l'a pas.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que... une tentation, d'abord parce que la compétence régalienne est du ressort des États et que la construction européenne s'est construite dans le rejet de l'exercice en commun de compétences régaliennes. Et la France, d'ailleurs, n'est pas complètement pour rien là-dedans. Hein, au milieu des années 50, 54, quand la France rejette la CED, Quelle est finalement la conséquence que l'on doit en tirer? C'est que, oui, la construction européenne se construit dans l'opposition, en fait, à l'exercice en commun de compétences régaliennes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on se concentre sur l'organisation d'un marché. Et ça, finalement, l'Union européenne sait faire. Elle est plutôt efficace pour faire fonctionner ce marché. Elle a des outils de concurrence, elle a des outils monétaires, elle a des outils de commerce à l'extérieur, où là, ça fonctionne plutôt bien, où là, elle est plutôt efficace. Et donc, effectivement, sur ces éléments-là qui ont fait l'objet d'une intégration, ça fonctionne bien. Par contre, sur des compétences de nature politique, des compétences régaliennes qui, encore une fois, sont placées au cœur de la souveraineté des États, eh bien, les États ont conservé jalousement, en fait, ces prérogatives-là, en pensant, finalement, que sur l'aspect liberté de circulation. On pouvait mettre en place un système tel que Schengen de dévalorisation finalement des frontières internes entre les États membres de l'Union européenne sans finalement partager l'exercice de leurs frontières extérieures.
Qu'est-ce qu'ils pourraient faire
de la protection de leurs frontières extérieures. Et je crois qu'on s'aperçoit, pardon, je finis juste là-dessus, je pense qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait ce n'est pas tenable. Et finalement, tout se passe un peu si là aussi je.
Mais vous apercevez que c'est pas tenable. Vous avez l'impression que nos responsables européens s'en aperçoivent.
Eh bien, essayons de les convaincre.
Regardez sur les frontières, regardez sur le contrôle des frontières, regardez sur le mécanisme de relocalisation. On sait que les efforts qui ont été produits jusqu'ici ont pas véritablement fonctionné. Et on se souvient évidemment de cet accord en septembre dernier. On s'est mis d'accord sur un mécanisme de relocalisation de 160 000 réfugiés. Vous avez vu combien ont été relocalisés? 1 000 à peine. Bon, on a l'impression que, y compris sur ce volet-là, on parlait tout à l'heure de l'intégration, il s'agit quand même bien de ça, en l'occurrence, on n'est pas du tout à la hauteur. L'Europe n'est pas à la hauteur. Et au bilan, quand on fait le bilan des choses, on se rend compte que sur les dépenses pour le contrôle des frontières, vous nous le dites, c'est pas assez. On n'a pas suffisamment utilisé les moyens. Sur la question de l'intégration du mécanisme de relocalisation, on n'y est pas. En gros, on a quand même l'impression d'être dans une situation où on manque de vision et où il y a une absence quasi totale d'action.
En tout cas, au niveau commun, c'est clair. Je ne peux pas vous dire autre chose. Et on ne peut qu'encourager, essayer de convaincre effectivement les responsables politiques d'avoir ce débat-là entre eux. Et ce débat-là, il est évidemment très difficile dans un contexte de montée des populismes. Un débat qui consisterait à poser la question de nouveau finalement transfert de compétences du niveau national vers le niveau communautaire. Et vous voyez bien que d'ailleurs de nombreux responsables politiques prennent prétexte finalement d'une montée du sentiment eurosceptique dans beaucoup d'États membres pour dire...
Se replier.
Pour se replier. Ouais. Et en fait, encore une fois, je ne pourrais pas dire le contraire, mais je ne peux qu'engager à organiser ce débat et à enrichir finalement le débat l'offre politique qu'on nous propose de ce point de vue-là en matière européenne. L'offre politique finalement qui nous est proposée, quelle est-elle? C'est finalement le repli national. C'est l'option du repli national. Je pense qu'il faut montrer que cette option du repli national, ce scénario qu'on nous propose, en fait, est extrêmement risqué. Il paraît sans doute pour beaucoup de chefs d'État et de gouvernement et sans doute certains citoyens peut-être tentant dans la mesure où ça donne le sentiment de retrouver un sentiment de souveraineté finalement en matière de choix sur des sujets régaliens. Et ça effectivement c'est très tentant dans le contexte actuel et en même temps c'est extraordinairement risqué et notre discussion en témoigne. C'est risqué politiquement parce qu'effectivement ça accentue les divisions et ça ne pourra que favoriser un discours de défiance, un discours parfois de rivalité entre les États européens et un discours de transfert de responsabilité des États vers l'Union européenne qui constituera évidemment un bouc émissaire fragile. Et donc ça ne pourra que renforcer encore une fois des divisions politiques que la construction européenne n'avait pas fait disparaître, mais en tout cas qu'elle avait quand même domestiquée en quelque sorte et qu'elle avait entourée de garde-fous. Et le risque, à mon sens en fait aujourd'hui, c'est celui-là, c'est-à-dire le retour à une Europe d'avant, de résurgence finalement de divisions politiques extrêmement puissantes avec ce scénario du repli, je le disais tout à l'heure, je crois, dans ces termes-là, sur le glacis national.
Et qui, en Europe, peut porter cette idée d'un besoin vital de transfert de compétences? Parce qu'on avait le sentiment que jusque-là, l'Allemagne peut-être avait cette capacité. Oui. Et on se dit qu'aujourd'hui, compte tenu des difficultés politiques d'Angela Merkel, avec donc plus d'un million de migrants qui sont arrivés sur la seule année passée, avec ces divisions dans son propre camp, avec la montée de l'AFD, qui est l'alternative pour l'Allemagne, qui est devenue la troisième force politique du pays, quand même. Alors évidemment, la dernière fois, en 2013, ils n'étaient pas parvenus à rentrer au Parlement, mais on se dit que très bientôt, ça pourrait être le cas. Est-ce que l'Allemagne est encore en capacité de porter cet espoir?
Je crois que oui.
Vous croyez ?
Je crois que oui. Vous avez raison sur le fait qu'il y a des tensions entre le gouvernement allemand, la chancelière notamment, et son opinion publique, notamment après ce qui s'est passé à Cologne, évidemment, le soir de la Saint-Sylvestre, la nuit de la Saint-Sylvestre. Mais je crois qu'en tout cas, la chancelière bénéficie en tout cas d'une forme de leadership politique au niveau européen. Que le discours d'ailleurs que vous avez passé tout à l'heure à votre antenne est quand même très intéressant de ce point de vue-là sur le devoir d'asile, sur le devoir d'accueil des réfugiés, sur les valeurs universelles. C'est quand même un discours qui est fort dans le contexte actuel, justement.
Mais il porte de moins en moins
auprès de l'opinion allemande. Qui peut être minoritaire, mais si la chancelière continue à l'exprimer, en fait, ce discours, si ce discours, on verra ce qui se passera en France en 2017, est repris aussi par d'autres dirigeants politiques, eh bien, on peut espérer, il est encore permis d'espérer, j'espère en tout cas, on peut peut-être espérer que...
J'aimerais partager votre optimisme, mais c'est pas vraiment le cas.
Non, mais je crois que c'est pas une question d'être optimiste ou pessimiste, c'est la question pour nous, en fait, ici, dans ce type de discussion, je crois, à essayer de montrer qu'il y a d'autres options, il y a d'autres scénarios, que le scénario, effectivement, peut-être majoritaire, en fait, qui nous est proposé aujourd'hui politiquement dans beaucoup de pays européens, et serait le scénario du repli national. C'est le scénario du retour à l'Europe d'avant. Je crois que nous devons absolument, si nous voulons en tout cas, si nous considérons qu'il faut tout faire pour favoriser ce degré minimal d'unité qui permettrait aux Européens de faire face aux crises et aux défis qui leur sont lancés, alors on doit essayer de montrer qu'une autre branche alternative existe et c'est engager en fait ce débat sur de nouveaux, effectivement, de nouvelles formes de mise en commun de l'exercice de compétences régaliennes, que ce soit d'ailleurs en matière de contrôle des frontières extérieures, que ce soit aussi en matière de lutte contre le terrorisme, on n'a pas évoqué ce champ-là, que ce soit aussi, on l'a vu d'ailleurs dans le cadre de la zone euro, en matière budgétaire, qui est aussi un élément régalien.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde toute cette semaine autour de l'Europe, une Europe fragilisée. On est avec Thierry Chopin, directeur des études à la Fondation Robert Schuman, chercheur associé aux séries Sciences Po et à la London School of Economics. Autre menace, Thierry Chopin, celle du Brexit. La sortie donc de la Grande-Bretagne de l'Union en novembre dernier, le Premier ministre britannique David Cameron avait envoyé une lettre au président du Conseil Donald Tusk dans laquelle il formulait ses exigences pour qu'il mène campagne en faveur du maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union. Pour ce référendum qu'il a promis d'organiser d'ici à la fin de 2017, on va retrouver David Bannerman, député européen, membre du Parti conservateur. Après un bref passage au UKIP, 7 ans quand même, de 2004 à 2011, il est retourné dans le giron des Tories. Il a fondé l'année dernière un groupe de pression eurosceptique, Conservatives for Britain. De quel œil voit-il ces négociations en cours entre David Cameron, désormais en campagne pour le oui, et le président du Conseil, Donald Tusk? C'est Clément Salazar qui s'est entretenu avec lui. On l'écoute tout de suite.
There are some very deep unresolved issues still in regards renegotiating the deal.
Ma réaction à ce courrier de Donald Tusk pour répondre à David Cameron, c'est qu'il reste encore de grosses pierres d'achoppement concernant la négociation de l'accord avec l'Union européenne. Il y a une déception généralisée, même de la part de ceux qui souhaitent rester au sein de l'Union européenne, face à la faiblesse de l'accord. Et cela joue vraiment en faveur des partisans du Brexit au Royaume-Uni, vous savez, parce que de nombreux indécis disent qu'il n'y a en fait rien dans cet accord, qu'il ne va faire aucune différence et qu'il n'est même pas juridiquement contraignant.
Mais l'Union européenne a fait énormément de concessions au Royaume-Uni avec par exemple ce mécanisme de frein d'urgence qui pourrait être actionné et qui remet en cause l'un des principes fondateurs de l'Union européenne, à savoir la liberté de circulation. Ce n'est pas, selon vous, assez pour épargner à la Grande-Bretagne une intégration plus importante?
We think the emergency brake is...
Nous pensons que le frein d'urgence est impraticable. Il comporte encore trop de zones d'ombre, comme par exemple le fait de savoir si le pays ne pourra l'actionner qu'une seule fois. Ce serait apparemment le cas. L'idée de devoir demander à de nombreuses autres nations la permission d'établir des contrôles aux frontières ou de les renforcer est à mon sens totalement erronée. C'est une insulte à la souveraineté britannique et la souveraineté française aussi, soit dit en passant. Vous savez, l'Union européenne ne devrait pas pouvoir supplanter les États-nations, notamment leur capacité à protéger leur population sur leur territoire et à établir des contrôles aux frontières strictes. Je souhaite poursuivre les relations commerciales avec l'Union européenne. mais je veux que la Grande-Bretagne ait la main mise sur ses propres frontières et soit libre de légiférer et de dépenser l'argent de ses contribuables de la manière dont il devrait l'être, ou en tout cas de la manière dont le peuple britannique le souhaite. Et je ne pense pas que cela soit trop demandé.
Et donc, bien que David Cameron fasse déjà campagne en faveur du oui, vous restez en faveur du non.
Yes, I am. I mean, I don't think you say that this emergency break and other things in this deal are.
Tout à fait. Vous conviendrez avec moi que ce frein d'urgence et d'autres points de l'accord ne font pas grand-chose pour la souveraineté. D'ailleurs, rien du tout, selon moi. Je ne pense pas que la proposition fasse de différence. Et je crois que les Britanniques sont sur le point de renoncer dans leur relation à l'Union européenne, car tout ceci montre à quel point elle est inflexible et combien il est difficile d'obtenir un changement quelconque, parce que ce ne sont là que des points mineurs qui ne vont rien changer. Et pourtant, cela fait tout un pataquès. Donc je crois que les Britanniques en sont arrivés à un point où ils se disent « Bon, ça n'a jamais vraiment marché, nous avons une approche différente. Si d'autres que nous veulent travailler ensemble à la création des États-Unis d'Europe, c'est leur problème. Mais la Grande-Bretagne doit se retirer et retrouver son indépendance et sa souveraineté. »
C'est en fait assez difficile de se faire une idée de ce que pensent les Britanniques parce que les opinions semblent assez volatiles. J'ai par exemple sous les yeux un sondage réalisé la semaine dernière par Open Europe, donc c'est très récent. Il apparaît que si Cameron arrive à obtenir gain de cause sur tous les points de la négociation avec l'Union européenne, alors 65% des électeurs seraient prêts à rester au sein de l'Union européenne.
I accept on the poll, you know, there are many people who may be swayed by the deal.
Vous savez, l'accord pourrait faire changer d'avis pas mal de monde. En 1975, cela avait été le cas avec l'accord obtenu par le premier ministre de l'époque, Harold Wilson. Mais là encore, cet accord était vide de toute substance, c'était une plaisanterie. Et aujourd'hui, nous avons de nouveau affaire à une plaisanterie, j'en ai peur. D'autre part, oui, les Britanniques doivent savoir quelles sont les conséquences auxquelles s'attendent. Mais en réalité, les conséquences seront très limitées pour le Royaume-Uni. Nous versons environ 20 milliards de livres sterling à l'Union européenne chaque année. Nous en récupérons 12. La différence, c'est beaucoup d'argent. De l'argent qui pourrait aller aux hôpitaux, à l'entretien des routes, aux infrastructures, au lieu de terminer dans les caisses de l'Union européenne. Mais le plus important pour les Britanniques, ce sont les liens commerciaux. Ils veulent pouvoir acheter des vins français, des voitures françaises, et vendre des Jaguars et des Land Rover à l'Union européenne, ou bien des produits pharmaceutiques, que sais-je encore. Vous savez, les affaires doivent continuer, et il ne fait aucun doute qu'elles continueront, parce que la Grande-Bretagne est le plus gros marché unique du reste de l'Union européenne, et ça, c'est un point très important.
Parlons peut-être un peu de cette scission au sein du Parti conservateur entre la ligne que vous représentez, par exemple, et celle qu'incarne Nick Herbert, par exemple, ancien Premier ministre, qui vient de lancer ce groupe conservateur pro-européen. Est-ce qu'un rapprochement à terme est possible ? Une réconciliation est-elle possible entre ces deux tendances et comment ?
Yes, I've got friends.
Oui, moi j'ai des amis des deux côtés, de bons amis qui font campagne pour le oui même. Mais ce qui est important ici, c'est que chacun se rende bien compte que ce seront les Britanniques qui décideront, pas le Parti conservateur ou le Premier ministre ou le chef ou le leader ou le président du Parti conservateur, quel que soit le nom qu'on lui donne. Ce sont les Britanniques qui décideront et notre rôle est de présenter nos arguments aux Britanniques pour gagner leur voix, d'une manière ou d'une autre. Nous devons vraiment sortir de l'Union européenne et ensuite signer ce que j'appellerais un accord commercial OMC+. C'est d'ailleurs ce qu'est sur le point de faire le Canada, de ratifier l'accord CETA, c'est-à-dire un accord économique et commercial global avec l'Union européenne. Nous serions ainsi libres, comme le Canada, comme l'Australie et comme d'autres pays, de gérer nos affaires comme nous l'entendons. Et c'est, je crois, ce que veulent vraiment les Britanniques.
David Bannerman, donc député européen, membre du Parti conservateur au micro de Clément Salazar. Thierry Chopin, réaction, on le voit. Alors bien sûr, on le sait, la Grande-Bretagne n'envisage aucun transfert de compétences. Hein, bien au contraire. Réaction sur ce qu'on vient d'entendre, sur ce mécanisme de frein d'urgence qu'il considère comme inapplicable. Thierry Chopin.
Peut-être trois réactions. La première, sur l'idée que le projet finalement d'accord, hein, puisque le Conseil européen aura lieu cette semaine, et c'est à cette occasion que peut-être accord il y aura, mais en tout cas le projet d'accord qui a été mis sur la table par le président du Conseil européen Donald Tusk il y a quelques jours, en réponse aux demandes de David Cameron, en vue effectivement de gagner son référendum, est jugé comme une plaisanterie, hein, c'est le mot qui a été utilisé. Je pense que c'est quand même largement excessif, au moins sur deux points. D'abord, effectivement, sur le frein d'urgence, c'est-à-dire ce mécanisme qui est censé être activé en cas de situation exceptionnelle dans au Royaume-Uni, voire dans d'autres pays membres de l'Union européenne, et qui permettrait de limiter l'octroi des prestations sociales à l'attention des travailleurs migrants intracommunautaires installés au Royaume-Uni, peut-être pendant une durée de 4 ans. Je pense que ce n'est pas du tout une plaisanterie, en fait, et que c'est une brèche ouverte dans la mise en question de la liberté de circulation et son corollaire, le principe de non-discrimination. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose de très, très sérieux et qui ne concernerait pas potentiellement, d'ailleurs, uniquement le Royaume-Uni, mais on imagine assez facilement que si ce mécanisme de frein d'urgence entre en vigueur, eh bien, d'autres pays membres de l'Union européenne pourraient très bien l'utiliser.
Deuxième élément sur lequel vous vouliez répondre.
Le deuxième élément sur la zone euro et les liens, les rapports entre la zone euro et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, en tout cas David Cameron, aurait obtenu et sur le point d'obtenir que les mécanismes de supervision financière, donc des institutions de crédit, des banques installées au Royaume-Uni, échapperaient en fait aux règles qui seraient celles en fait des pays de la zone euro. C'est-à-dire que là, on accentue en fait avec un mécanisme comme celui-là la ligne de partage, de fracture peut-être entre les deux Europes, c'est-à-dire celle de l'Europe à 28 et celle de la zone euro. Donc là, je trouve aussi que c'est un élément qui est très sérieux, qui n'a pas été beaucoup mis en évidence, mais je crois que c'est un élément important.
Troisième
point, très rapidement, de toute façon, effectivement, du point de vue de responsables politiques, eurosceptiques, voire a fortiori europhobes, l'accord que pourrait obtenir David Cameron au Conseil européen de la fin de semaine ne sera jamais suffisant. Et donc la difficulté pour David Cameron sera de vendre en fait cet accord et de montrer qu'il a exercé une vraie capacité de négociation permettant d'obtenir un accord ambitieux. Et d'ailleurs, ce qui me semble être une petite difficulté, puisqu'au départ le référendum qui doit être organisé d'ici quelques mois doit être un référendum posant la question finalement de l'intérêt ou pas des Britanniques à rester au sein de l'Union européenne. Or, en insistant, en focalisant vraiment sur le résultat de l'accord dont on vient de parler, on a l'impression que le référendum pourrait porter quand même sur une autre question, qui est celle, encore une fois, de la capacité de Cameron, son influence politique, à obtenir quelque chose dans la négociation avec ses partenaires européens.
Pour mesurer justement s'il est préférable pour les Britanniques de rester à l'intérieur ou d'en sortir, il faut savoir un petit peu aussi ce qui se passerait s'ils en sortaient précisément. Je propose d'écouter une nouvelle voix, très critique d'ailleurs à l'égard de David Bannerman, bien qu'ils soient tous les deux en faveur du Brexit. Richard North, qui est un supporter du Brexit de la première heure, pour cause, pour lui, la Grande-Bretagne n'a jamais eu vocation à être membre de l'Union européenne. Il a été directeur de recherche pour l'ancien groupe parlementaire européen Europe des démocraties et des différences, qui est devenu ce groupe indépendance-démocratie, dont faisait partie d'ailleurs le UKIP et dont il était proche. Il se consacre maintenant tout entier à ses activités de blogueur. Depuis 2 ans, une étude intitulée Flexit est disponible gratuitement sur son blog eurefandom.com, 420 pages dans lesquelles il détaille avec d'autres juristes, économistes, une alternative viable économiquement, en tout cas c'est ce qu'il considère lui à cette Union européenne. Problème selon lui, aucune force politique eurosceptique ne propose justement un plan de sortie de l'Union crédible, et résultat, même pour lui, un Brexit pourrait être dangereux. On l'écoute, il est au micro de Clément Salazar.
Quite frankly, I think that since 1975, when we've had the last referendum,
franchement, je pense que depuis 1975, date du dernier référendum, ce que l'on appelle le mouvement des eurosceptiques se caractérise par des chamailleries et des conflits internes permanents, ainsi que par une incapacité totale à concevoir un programme alternatif et à proposer des solutions sensées pour la Grande-Bretagne une fois sortie de l'Union européenne. Et c'est naturellement là que le bât blesse dans cette campagne. Le fait de ne pas pouvoir se mettre d'accord sur une doctrine ou des idées, si vous préférez. Vous avez de nombreux petits groupes qui se chipotent, qui jouent des coudes pour se faire leur place au soleil, mais sans avoir aucune idée précise de ce qu'ils veulent faire. Le groupe de Mr. Bannerman, par exemple, propose de soi-disant solutions qui sont en réalité impossibles à mettre en pratique, selon le droit international. Et c'est ce qui, je le crains, caractérise une grande partie des débats actuels. C'est du grand n'importe quoi, avec en prime les médias qui préfèrent généralement se faire l'écho des conflits et personnaliser la politique. Ils n'aiment rien tant que de parler des bisbilles, vraiment rats des pâquerettes, au lieu de traiter d'une question qui est somme toute complexe et qui exige une certaine connaissance et une certaine compréhension du contexte. UKIP a consacré une grande partie de son énergie à tenter de faire entrer ses membres au Parlement britannique. Il a méchamment raté son coup, et y ayant consacré toutes ses ressources, il a aujourd'hui perdu la main et n'a aucune idée crédible quant à la manière dont la Grande-Bretagne gérerait ses relations européennes, ou plutôt ses relations post-Union européenne. C'est un parti qui n'a proposé aucun plan de sortie crédible. UKIP ne fait montre d'aucune cohérence intellectuelle. De notre côté, nous avons lancé ce processus. Et bon, ce n'est pas moi qui en ai eu l'idée, mais le plan a été créé de façon participative. Il est en ligne depuis plus de 2 ans. Des centaines de personnes y ont contribué. Bon nombre des propositions que nous entendons ne sont tout bonnement pas réalisables dans le cadre juridique qui est le nôtre. Cela devient donc un fantasme et de nombreux eurosceptiques britanniques vivent dans ce monde imaginaire. En l'absence de stratégie de sortie convaincante, soyons prudents au moment de nous engager à sortir.
Voilà, donc Richard North au micro de Clément Salazar. Intéressant cette position parce qu'il est à la fois pour une sortie de l'Union européenne et en même temps, il considère qu'il y a un véritable danger à sortir parce que précisément, on n'a pas du tout prévu le coup. C'est ce qu'il explique.
Oui, c'est très frappant, effectivement. Et on peut dire que finalement le choix, la proposition qui a été faite par David Cameron, sa décision prise d'organiser un référendum sur le maintien ou la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, finalement au départ ne relève pas, je crois en tout cas, d'un choix stratégique au sens d'un choix qui s'inscrirait dans une vision finalement de l'avenir du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union européenne. Je crois qu'au départ c'est un choix très tactique, très politicien, qui lui a permis, entre autres facteurs, de gagner finalement les élections de mai 2015, les élections générales.
Il est pris à son propre piège.
Et je crois qu'il est pris en quelque sorte à son propre piège. Alors peut-être qu'il réussira à gagner son référendum, peut-être que le Royaume-Uni restera dans l'Union européenne, ce qui, je crois, est souhaitable en réalité, mais ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain, et ce qui peut peut-être expliquer effectivement ce sentiment d'un vide, en tout cas du point de vue des alternatives possibles en cas de Brexit, c'est-à-dire en cas de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Surtout qu'il y a évidemment plusieurs risques qui menacent derrière cela, et notamment le risque de la désunion pour Royaume, puisqu'on sait que les Écossais sont extrêmement europhiles et qu'ils ont déjà prévenu qu'en cas de sortie de la Grande-Bretagne, eux demanderaient une intégration immédiate à l'Union, et du coup, il y a un véritable risque là, de ce point de vue-là. On va prendre la direction à présent, si vous le voulez bien, de l'Europe centrale, des pays qui sont extrêmement critiques, on le sait, vis-à-vis de cette question de la migration, et notamment le premier d'entre eux, peut-être le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán.
À dater du 15 septembre, le franchissement illégal de la frontière sera un crime passible de lourdes peines. Nous indiquons des lieux de passage, nous avons établi des procédures juridiques, personne n'a le droit d'enfreindre ces règles.
Voilà, Viktor Orbán, l'une des saillies vis-à-vis de cette question de la migration. Bonjour Jana Vargošíková.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous par téléphone depuis Prague. Vous êtes doctorante en politologie à l'Université Charles à Prague et à l'Université Paris-Ouest-Nanterre par ailleurs. Alors aujourd'hui, ce groupe de Visegrád, c'est donc la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, se retrouve justement à Prague. On est donc 25 ans après la création de ce groupe-là, même si on en parlera peut-être tout à l'heure, on fera un petit peu d'histoire. Il existait déjà un petit peu avant, mais disons qu'officiellement, sur la période moderne, c'est à peu près les 25 ans. Aujourd'hui, ces pays partagent une vision commune sur cette menace que représenterait l'immigration et le refus d'accueillir ces migrants comme le prévoit le mécanisme de relocalisation, eh bien, il est bien partagé par tous ces pays. D'abord, en quelques mots, quelle va être la stratégie de ces pays pour imposer justement leur position au sein de l'Union européenne? Comment est-ce qu'ils comptent peser sur cette question?
Déjà, la rencontre d'aujourd'hui, donc celle qui permet de marquer à la fois les 25 ans de l'existence du groupe Visegrád, mais qui se trouve-t-il assez opportunément, survient juste quelques jours avant le Conseil européen très important de jeudi et vendredi, leur permettra de se concerter, de créer une position commune, assez probablement. Visegrád a demandé à ce que l'argent de l'Union européenne soit investie davantage dans la protection des frontières entre la Bulgarie, la Macédoine et la Grèce, c'est-à-dire un renforcement de frontières à l'intérieur du Schengen, ce qui est le cas de celle entre la Bulgarie et la Grèce, plutôt que dans des mesures de renforcement et d'aide à la Grèce. Mmh. Donc, ceci est vu par de nombreux partis, y inclus bien sûr l'Allemagne, comme une contre-alternative au projet d'une aide prioritaire à la Grèce et d'un renforcement des frontières Schengen existantes.
Jeanna Varkaušíková, la question qu'on se pose, c'est qu'évidemment, il y a cette position commune sur l'immigration. Mais est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels ces pays, sur lesquels ce groupe de Visegrad s'entendent? Est-ce que, par exemple, on a une même vision de la politique de défense, sur la coopération dans le domaine culturel? Est-ce que finalement, on a un projet politique, une vision de l'Europe et du monde au-delà de cette seule question de l'immigration?
Eh bien justement, pour comprendre le rôle du groupe Visegrad dans les négociations européennes, il faut bien regarder ce qui est écrit un peu entre les lignes. On entend, ce n'est pas pour rien qu'on entend parler du groupe Visegrad, finalement, qu'à l'occasion, là dernièrement, donc de la crise des réfugiés, et puis à d'autres occasions, lorsque sont négociés les fonds structurels et les fonds de cohésion. Sur d'autres sujets, ces quatre pays peuvent avoir des opinions tout à fait divergentes. D'ailleurs, même lors de la crise autour du conflit en Ukraine, les quatre n'étaient de loin pas tout à fait d'accord. La position, bien sûr, entre la Pologne et la Hongrie envers le rôle de la Russie dans la solution de ce conflit est très très différente également. C'est pour cela d'ailleurs que le chef du parti Droit et Justice, Kaczynski, a refusé ou a dit avoir refusé rencontrer Viktor Orban l'année passée, justement à cause de sa sympathie et de ses relations avec Vladimir Poutine.
Donc, alors du coup, il y a quand même une question qui se pose, hein, Jeanna Varkaušíková, c'est que si finalement ces quatre pays ne sont d'accord que sur cette question de l'immigration, comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, 25 ans après sa création, eh bien ce groupe soit encore en vie finalement, puisque ces questions d'immigration, d'ailleurs il y a 25 ans, j'imagine que les positions étaient très différentes, on était bien plus favorable justement à une circulation du côté de ces pays. Alors pourquoi cette longévité finalement?
Cette longévité, selon certains, serait un peu paradoxale à cet égard, puisque de nombreux diplomates tchèques, slovaques disent justement que c'est un peu ce caractère léger, très peu institutionnalisé, à la limite presque informel, de ce qui est davantage une alliance d'intérêts qu'une vraie plateforme politique, puisqu'elle ne produit pas réellement de position commune. Ce n'est pas comme si, au sein du groupe Visegrad, naissaient des positions communes qui ne seraient pas fondées sur des intérêts préexistants des quatre pays. Donc là où les quatre peuvent utiliser le label Visegrad pour amplifier leur voix, ils le font. Et puis, il y a d'autres moments où les constellations politiques font que les divergences sont trop fortes. Le groupe Visegrad est en veille, on pourrait dire, entre guillemets, et attend d'être remobilisé ensuite, ce qui peut être 3-4 ans plus tard. Et c'est ainsi que se sont écoulés plus ou moins les 25 ans de son existence.
Thierry Chopin, réaction, parce que... Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, qu'on se retrouve dans une Europe où se multiplient, justement, ces plateformes d'intérêt, pour reprendre l'expression de Jeanna Varkaušíková? Ça, c'est une véritable menace aussi pour l'unité de l'Union.
Alors, je crois qu'il faut pas exagérer, en fait, ce risque, en tout cas pour ce qui concerne le groupe de Visegrad. Effectivement, il y a une singularité, sans doute, centre-européenne sur la question des réfugiés, une singularité qui s'explique sans doute par l'histoire de ces pays, qui s'explique par la relative homogénéité, en fait, de ces sociétés qui ne sont pas des sociétés d'immigration. Et donc qui ont sans doute une sensibilité très particulière vis-à-vis du phénomène migratoire. Néanmoins, je ne suis pas du tout certain, et je partage entièrement ce qui vient d'être dit, sur la logique de bloc, en fait, qui serait celle du groupe de Visegrad sur d'autres sujets. Je pense qu'un pays comme la Pologne, qui fait partie du groupe de Visegrad, est quand même très tenté de participer activement, ce qui est déjà le cas au Triangle de Weimar, donc autre groupe avec la France et l'Allemagne, notamment en matière de défense. Et je ne crois pas que le groupe de Visegrad puisse être comparé, par exemple, à quelque chose qui ressemble, par exemple, au franco-allemand, qui ressemble au Benelux. Je pense quand même qu'il faut nuancer les choses. Et puis, par ailleurs, j'allais dire que sur la dureté des positions vis-à-vis de la crise des réfugiés, on trouve aussi dans d'autres pays, notamment à l'Ouest, des positions qui sont également...
Notamment, évidemment, la Grande-Bretagne dont on parlait.
Notamment la Grande-Bretagne.
Merci beaucoup, en tout cas, Jana Varkochikova, d'avoir été avec nous en direct depuis Prague. Et puis, un grand merci à vous, Thierry Chopin, de nous avoir accompagnés pour cette première émission consacrée à l'Europe. On continuera de parler d'Europe demain. Je rappelle, pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, la fracture politique de l'Europe, crise de légitimité et déficit politique, c'était aux éditions Larcier.
C'est ça.
Merci beaucoup d'être passé chez nous. Dans un instant, sur France Culture, c'est La Grande Table avec Caroline Brouet, mais juste avant, c'est La Vie Moderne sur France Culture. Très belle journée et à demain.